Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Julien Laurence, Edgar Grosso, Paulo Breitner et Daniele Manuccia. Alors Julien, on a tous ou presque eu de la peine pour un club écossais ce week-end, donc Heart of Midlothian, qui rêvait d'un premier titre de champion depuis 1960, depuis 66 ans. Mon cher Julien, on a tous eu l'image incroyable et le dernier but notamment du Celtic.
Ouais, on a essayé de vous tenir informés dans toute la saison, dans l'émission. On a fait des minutes, on a fait un peu plus que ça même sur ce championnat écossais qui cette saison, au-delà du duel habituel entre les Rangers et le Celtic, qui donc truste tous les titres depuis 1985 et le titre du Aberdeen d'Alex Ferguson à l'époque. Il n'était pas encore Sir Alex, il était que Alex Ferguson, un jeune Alex Ferguson même d'ailleurs. On vous a raconté un petit peu cette histoire incroyable de cette équipe de Hearts qui n'est pas du tout favorite, loin de là. Une équipe basée beaucoup sur la data, sur le recrutement, sur les stats. Tony Bloom, donc le propriétaire de Brighton, qui a pris des parts dans Hearts et qui a donc insufflé cette nouvelle dynamique un petit peu. Ils sont allés chercher des joueurs un peu partout dans toutes les secondes divisions des pays européens, tout ce que vous voulez. Et puis ils ont fait la course en tête quasiment toute la saison. La dernière fois que le Celtic était premier, c'était en septembre. Depuis, c'était Hearts qui était toujours premier. Et en Écosse, un petit peu comme en Belgique par exemple, même si ça va changer aussi là-bas, ils ont un format un petit peu différent des nôtres. C'est-à-dire que tu peux finir premier en fait de la saison régulière, si tu veux, du championnat. Contrairement à tous nos championnats à nous, si t'es premier, bah t'es champion. Là, c'est pas le cas. Ensuite, ils te font des playoffs entre les six premiers pour déterminer le champion. Tu gardes tes points de la phase régulière, si tu veux. Et puis après, donc, même en finissant premier, en dominant la phase régulière, si vous voulez, du championnat, ils ont quand même eu ensuite des playoffs à faire où ils ont affronté deux fois le Celtic, les Rangers, Motherwell, etc. Ils ont perdu quelques points en route, mais aussi comme les Rangers, un peu moins le Celtic, puisque le Celtic venait de gagner 7 matchs d'affilée en championnat. Et donc, on est arrivé à samedi midi à Celtic Park. Pour la finale du championnat, il y avait un point d'écart. Hearts était premier, le Celtic était deuxième avec juste un point derrière, après avoir eu un pénalty miraculeux, mais même pas juste miraculeux, complètement pas mérité en milieu de semaine pour aller gagner à l'extérieur, à Falkirk, je crois que c'était. Bref, il y a un point d'écart. Finalement, si Hearts ne perd pas à Glasgow, ils sont champions. Il faut que le Celtic gagne pour qu'il soit champion. Hearts ouvre le score, prend l'avantage dans une équipe. Pourtant, ils avaient laissé leur meilleur joueur Claudio Braga sur le banc. J'ai pas trop compris pourquoi Derek McInnes avait choisi de faire ça. Mais bref, ils ont ouvert le score, ils ont mené. Le Celtic est revenu à un partout. On jouait la 87e minute et Dazen Maeda, leur buteur japonais, à la limite du hors-jeu. Vraiment, ça se joue à rien du tout et la VAR doit intervenir en plus. Mais ce deuxième but qui offre le titre au Celtic, sincèrement, c'était, alors il y a le jeu de mots facile de heartbroken qui veut dire ton cœur est
cœur brisé.
Cœur brisé, voilà, exactement, avec Hearts, ça c'est facile à faire, mais sincèrement, tu les voyais pleurer sur le terrain, les pauvres, en plus, à la fin du match, tes supporters complètement idiots du Celtic, ouais, qui envahissent le terrain, qui les insultent, qui les bousculent, t'as vraiment pas besoin de faire ça en plus. Mais voilà, ça nous a donné un final incroyable de championnat d'Écosse qui a vraiment été incroyable cette saison. Sincèrement, je sais que c'est pas non plus le meilleur des championnats, mais c'était vraiment un suspense incroyable.
Ça veut dire aussi, Julien, que le Celtic ou même les Rangers ne sont plus inatteignables en réalité. C'est ça aussi l'information.
Oui, c'est ça. C'est leur échec. Enfin, finalement, le Celtic finit par gagner, mais si Hearts avait été champion, ce qu'ils auraient dû être, ils ont mérité. C'est la meilleure équipe du championnat et de loin cette saison. C'est aussi parce qu'effectivement le Celtic et les Rangers avaient été loin de leur niveau habituel, mais c'est comme ça aussi que un petit peu quand tu vois un Lille gagner en France ou un Montpellier ou un Monaco, c'est un petit peu différent, mais tu vois l'idée un petit peu. Il faut que le PSG soit un peu moins bon que d'habitude. Là, le Celtic et les Rangers c'était un peu moins bon que d'habitude, un peu comme le Bayern aussi si on veut en Allemagne. Mais ce qui est beau finalement côté Celtic, même si on peut regretter que ce soit pas les Hearts qui étaient champions parce qu'encore une fois ils le méritaient, c'est que Martin O'Neill, lui, entraîneur légendaire du club, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un entraîneur à l'ancienne, pour lui les XG, les data, les stats, c'est n'importe quoi, il ne veut même pas entendre parler, ça ne l'intéresse pas du tout, c'est la vieille école, c'est un dinosaure finalement, qu'il arrive comme ça en deux temps finalement, parce qu'il est revenu une première fois comme intérim, il est revenu une deuxième fois comme intérim pour finir la saison, arrive comme ça au forceps à remporter le titre de champion, leur 56e je crois dans leur histoire, c'est juste incroyable quoi, bravo à lui.
Voilà, avec deux points d'avance sur Hearts of Midlothian. Edgar, le soulagement du CVFC, on en a parlé longuement cette saison également, finalement tout va bien, maintien en Liga.
Incroyable, ils ont gagné 3 matchs d'affilée. Alors là, ils ont perdu leur dernier match face au Real Madrid, mais avant ça, ils gagnent 3 matchs d'affilée, notamment en gagnant un match 3-2 sur la pelouse de Villarreal, 3e de Liga, qui est d'une régularité sans nom, alors qu'il n'a plus rien à jouer.
Oui,
mais quand même,
plus rien,
alors
c'est
qu'il
ça.
Perdait, non, oui. Mais il perdait 2-0 Séville, et je crois que même avant la 70e, il mène 3-2, quoi, un truc comme ça, ou avant la 75e, avec un but d'accord Adams. C'est vraiment, ils sont allés la chercher au mental, cette fin de saison, ce maintien. C'est, je pense, le maintien aussi des supporters et avant tout des supporters. Parce qu'on parle souvent d'union sacrée dans tous les clubs. Dès qu'il y a des difficultés, on parle d'union sacrée. Mais alors là, c'était vraiment l'union sacrée. T'as des supporters qui en peuvent plus depuis des années, qui sont énervés contre à peu près tout le monde, contre certains joueurs, contre surtout la direction. Et là, ils ont fait un spectacle sensationnel sur les dernières semaines pour soutenir leur équipe. Quand l'équipe en avait le plus besoin, l'ambiance au stade était vraiment impressionnante et je pense que ça a vraiment, vraiment porté cette équipe. Et puis, l'autre grand responsable de ce maintien-là, c'est le nouvel entraîneur qui a pris la suite d'Almeida, Luis García Plaza, qui, on va dire, a fait appel aux bases. Il est revenu au plus simple. Il a mis en place un 4-4-2 efficace. J'ai l'impression que les joueurs, on leur a demandé de faire des choses qu'ils maîtrisaient, des choses beaucoup plus simples, beaucoup moins risquées en défense, parfois plus directes. Moi, j'en avais parlé pendant la saison. J'adorais regarder le Séville d'Almeida et surtout sur la première partie de saison parce que c'était une équipe qui était souvent plaisante où il se passait beaucoup de choses parce qu'il marquait, il prenait beaucoup de buts. C'était, en tout cas, les matchs étaient sympas. Mais par contre, l'équipe était jamais en maîtrise. Et je pense que le nouveau coach, ce qu'il a réussi à faire, c'est de vraiment mettre les priorités là où il le fallait, d'exploiter les qualités de cette équipe en leur demandant vraiment des choses simples qui allaient faire gagner des matchs, et il a réussi, et il réussit à maintenir cette équipe, et c'est une super nouvelle pour Séville, une super nouvelle pour le championnat d'Espagne, parce que sans faire de favoritisme, on a tous envie que des équipes et des clubs comme ça, comme Séville, soient en première division. Donc chapeau à eux.
Une bonne nouvelle pour Sergio Ramos également.
De la fin. Edgar, ouais, hein. Et une bonne nouvelle, c'est ce que j'allais dire, une bonne nouvelle pour Sergio Ramos qui avec ses amis de 5-11 Capital va racheter le club, hein. C'est surtout, c'est pas en majorité, c'est pas son argent évidemment, mais c'est le visage de ce rachat à venir pour environ 400 millions d'euros, et évidemment une descente aurait changé beaucoup de choses, donc c'est une vraie bonne nouvelle pour eux, et je pense que ça va faire beaucoup de bien à tout le club, à tous les supporters de Séville, de dire au revoir à Del Nido Carrasco, le président, de dire au revoir à la direction actuelle et de passer à autre chose, parce que ils ont joué avec le feu vraiment ces dernières années, et il aurait pas fallu, je pense, une énième saison comme ça la saison prochaine, et j'espère en tout cas que les nouveaux repreneurs vont on va dire amener une nouvelle dynamique.
Alors, rendez-vous que je donne à nos Aftoriens qui nous écoutent là, dimanche à 17h, multiplex, avec un match à la vie, à la mort, Edgar, pour le maintien, entre Gérone et Elche. 2 points d'écart entre ces deux équipes-là, 18e et 17e, 2 points en faveur d'Elche. Le vainqueur de ce match se maintiendra en Liga, ça va être exceptionnel.
Ah ouais, pour le spectacle, c'est génial. Pour le spectacle, c'est génial, surtout que ce sont deux équipes.
Ce sera pas forcément beau, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est des matchs qu'on a envie de regarder.
J'ai envie. Alors oui, peut-être avec la pression, mais quand même, pour deux équipes qui jouent le maintien 17e, 18e, t'as quand même des vrais joueurs de ballon. T'as Elche, une vraie philosophie de jeu. À Gérone aussi, théoriquement, même si ça n'a pas toujours eu du succès cette saison, et que souvent, t'as surtout l'impression que c'est Unai, en fait, qui joue tout seul. Ouais, et oui. Les autres qui sont incapables de mettre un pied devant l'autre, c'est assez terrible. Bon, au moins il sera prêt pour la Coupe du Monde, hein, pour les supporters marocains qui nous écoutent. Il est au niveau, ça c'est une certitude. Mais ouais, ça va être un super match. Et Gérone, la saison dernière, il jouait avec des champions. Rendez-vous compte. Moi, je suis arrivé en Espagne. Gérone était une équipe de Ligue des Champions. Et moins de 2 saisons après, Gérone peut potentiellement descendre. Et en tout cas, pour Mallorca, c'est quasiment terminé. Même en ayant Muriqi, deuxième meilleur buteur du championnat, Mallorca, là, Opta disait qu'ils avaient environ 5% de chance de se maintenir. Il va falloir beaucoup, beaucoup de faits qui vont en leur sens pour se maintenir lors de la dernière journée.